Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, l'interview sur RDWA. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Crosset. Bonjour.
Bonjour Yves, je suis ravi d'être présent aujourd'hui sur votre onde, sur votre radio. Et je suis là pour vous présenter mon projet.
Projet agro-silvopastoraliste. Et vous êtes en quelque sorte aussi propriétaire de la ferme des Bonnets.
C'est ça. Je suis éleveur ovin, donc installé au Bonnet dans la vallée de Quin, à environ 650 mètres d'altitude. Et l'idée que j'ai depuis quelques années, c'est avec les contraintes climatiques, c'est de développer un nouveau système d'agro-silvopastoralisme, c'est-à-dire que les animaux sont amenés à pâturer sous des arbres qui auront un certain espacement, de manière à bénéficier de plus d'ombre l'été. Et ces arbres ont la vocation à créer un microclimat. Dans mon projet, l'idée d'avoir des arbres qui produisent des fruits. C'est pas de l'agroforesterie, c'est-à-dire ce ne sont pas des arbres destinés à être coupés pour valoriser le bois, mais c'est bien le fruit. Et en ce sens-là, c'est relativement rare. Aujourd'hui, ce qu'on trouve comme expérience, c'est des vergers existants conventionnels avec du pâturage entre rangs. Voilà.
Le projet est défini comme agro-silvo-pastoralisme.
Si vous voulez, c'est l'arbre, c'est pas forcément le résineux, c'est l'arbre. Et donc, comme je vous le disais un peu antérieurement, moi, mon souhait, c'est un arbre qui apporte une valeur, donc des fruits, sur une couche. Donc, on aurait la couche pâturée par les animaux, avec ses cultures, son fourrage, et puis une couche supérieure, une strate supérieure portée par les arbres, donc avec une valorisation des fruits. Donc l'idée est là. Alors pourquoi ceci ? C'est parce que c'est aujourd'hui, il me semble, c'est une réponse au réchauffement climatique. Quand on a des étés très secs et très chaud, je pense au bien-être des animaux et je pense aussi à la croissance, à la pousse d'herbes sous ce microclimat qui est créé à l'ombre des branchages.
Pour résumer, c'est de transformer la gestion de votre exploitation pour faire face aux réalités climatiques. Étant depuis 2013, avez-vous constaté effectivement une transformation de la nature par rapport justement à ces réchauffements climatiques ?
Alors effectivement, on a une transformation qui est réelle. Après, toutes les années ne se ressemblent pas.
Et quelles sont-elles ces transformations ?
Alors aujourd'hui, on a une pousse d'herbe qui est extrêmement déficiente à partir du mois de juillet du fait de la chaleur et du fait aussi du manque de précipitations. Puisque le réchauffement climatique se traduit certainement par une pluviométrie, un volume de pluie qui est similaire à ce qu'on avait avant, mais par contre, c'est les répartitions qui ne sont pas identiques. Donc, on a des manques d'eau pendant l'été, et ça, c'est préjudiciable à la pousse de l'herbe. Et donc, avec les arbres, ça permet de maintenir, mais pas que, il n'y a pas que les arbres, il y a aussi le travail. Enfin, entre guillemets, le travail du sol, puisque l'idée, c'est aussi de développer tous ces micro-organismes qui travaillent dans le sol, qui amènent une fertilisation naturelle dans le sol pour avoir des prairies plus résilientes et plus appétantes sous la canopée formée par les arbres.
Les arbres eux-mêmes ont souffert sur vos terrains ?
Alors, les arbres, si vous voulez, il y a des arbres qui sont bien adaptés, il y en a d'autres qui le sont moins. Et les arbres moins adaptés souffrent effectivement. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y ait une mortalité d'arbres, mais on le voit, c'est. Oui, les arbres et même les strates plus basses souffrent. Bon, je ne rappellerai pas l'incendie qu'il y a eu dans le secteur
à Romeyer.
À Romeyer, voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas d'avoir du pâturage en forêt. J'en fais parce qu'il y a de la forêt dans ce vallon. Mais par contre, l'idée, c'est plutôt sur les prairies existantes, c'est les arborer de manière à créer justement un biotope un peu différent et de manière à résister à ces à ce changement.
Aux sécheresses.
Aux sécheresses, voilà. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque si on considère, on regarde bien dans le secteur, dans le Diois en règle générale, on avait cette approche-là avec des noyers qui étaient plantés de manière espacée. Aujourd'hui, les choses ont été bouleversées, mais si on va sur une, par exemple, sur Géoportail, et en regardant les couches qui nous permettent de constater 50 ans en arrière, on aperçoit encore des espaces qui étaient régulièrement plantés d'arbres, espacés d'une trentaine de mètres. C'est pas le fait de dire que ce que les gens faisaient avant était bien, aujourd'hui ce qu'on fait c'est moins bien, c'est qu'il y avait aussi cette adaptation et il y avait aussi sans doute le besoin d'être plus autonome, donc avec là, en l'occurrence, c'est du noyer. Moi, aujourd'hui, les arbres que je vais planter, j'en ai aucune idée, puisque l'idée de ce... de cette collecte à travers Mimosa, c'est de faire appel à un bureau d'études avec lequel je vais travailler pour savoir dans quelle direction on va aller, et ça va aller jusqu'au choix des arbres, voire la valorisation des fruits. Voilà l'idée générale.
Alors actuellement, vous avez des pâturages. Hein,
oui.
Alors je vois 40 hectares, c'est peut-être plus.
Non, alors en fait, c'est tout dépend ce qu'on met derrière le terme de pâturage. 40 hectares, c'est les prairies permanentes plus les landes et les bois pâturés. En fait, c'est ça. Mais par contre, en prairie permanente pure, celle que je souhaite arborer, c'est 17 hectares. Voilà. Mais initialement, on ne va pas faire l'étude sur 17 hectares. L'étude va être faite sur globalement 7 hectares. Donc on a retenu plusieurs parcelles. Et l'idée de cette étude, c'est quand même de fixer, essayer de faire rentrer l'eau dans le sol quand elle est là, de manière à éviter tous les phénomènes d'érosion et de ruissellement, et de façon aussi à activer la vie du sol, puisque un sol vivant, un sol fertile, c'est un sol qui a besoin d'eau et d'air. Ce ne sont pas des sols compactés. Et donc, l'idée, c'est de trouver un système qui me permette d'aller vers ça. Alors, je ne vais pas anticiper sur les résultats que me proposera le bureau d'études en permaculture. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller vers ça. Voilà.
Alors, c'est une réflexion que vous avez sur cette gestion de terrain à l'heure actuelle. Vous avez un bétail plutôt ovin ?
Alors, j'ai une troupe d'ovins. J'avais 250 brebis de race Bizet. J'ai changé de race pour un problème sanitaire. Aujourd'hui, j'ai 100 romanes. Donc, c'est un petit troupeau. Mais je veux remonter l'effectif. Mais oui, effectivement, moi, j'ai besoin d'avoir un fourrage de qualité au niveau du sol. J'ai besoin d'avoir des animaux qui soient bien l'été quand il y a au sol. Je parle pas à l'ombre, je parle au soleil, pas loin de 50 degrés, où on a des pâtures qui aujourd'hui sont vides, on ne peut pas laisser les animaux dedans. On a des contraintes, les faire pâturer la nuit aujourd'hui. aujourd'hui, compte tenu de la prédation, c'est quasiment pas possible. Et j'ai pensé donc à l'arbre, planté en arbre. Ce sont des systèmes, je vous l'ai dit, qui existaient dans le Diois, mais si on va en Espagne, en Salamanque, on voit des paysages immenses avec des chênes à glands doux et des animaux qui pâturent dessous sous des latitudes qui ne sont pas les nôtres, c'est courant.
Il y a quelques années, des éleveurs sur le Haut-Diois déploraient l'avancée de la végétation, des forêts même, au détriment des prairies, donc se retrouvant avec de moins en moins de zones de pâturage. Ça, c'est un point que vous prenez en compte aussi dans cette manière de transformer cette gestion.
Alors, si vous voulez, le point que vous venez de soulever, il est relatif à des estives qui sont en altitude, où la végétation n'était pas adaptée à une époque, parce que les climats étaient trop rigoureux. Compte tenu du réchauffement, certaines essences s'adaptent et colonisent des niveaux plus hauts. Nous, en aval, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, en aval, j'ai pas ce problème de colonisation. Par contre, j'ai plutôt un problème d'herbe qui est déficitaire l'été, à partir du 15 juin. Enfin, tout dépend des années. Cette année ne ressemble pas à celle de l'année dernière, qui ne ressemblait pas à celle précédemment. Mais si vous voulez, à partir du 15 juin, généralement, la pousse d'herbe est de mauvaise qualité. Enfin, disons, il y a peu de pousses d'herbe, donc on est sur une herbe de mauvaise qualité jusqu'aux pluies du 15 septembre, quand les pluies reviennent. Alors, on a des années exceptionnelles, comme l'année dernière, où l'été a été effectivement chaud et sec, mais à partir du moment où la pluie est revenue, l'herbe a été de qualité et les animaux, tout de suite, se sont retapés. L'idée de l'arbre, c'est de lisser ces phénomènes. C'est-à-dire pâturer sous des arbres ou à l'ombre et avec les rosées qui sont maintenues, une différence de température, une hygrométrie de l'air sous la canopée fait qu'on a une pousse qui est plus régulière. C'est d'exploiter cette possibilité-là. Voilà.
Il y a donc la végétation existante souffrant de cette sécheresse. Est-ce que dans l'idée, pour vous, ça serait d'amener d'autres végétations qui sont peut-être plus adaptées à ce nouveau climat? Est-ce que ça, c'est une des pistes?
Alors, si vous voulez, si j'avais pas fait appel à... souhaiter avoir l'appui d'un bureau d'études en permaculture, j'aurais de toute façon... était vers ce type dans cette direction. Pourquoi ? Parce que, pour moi, l'arbre est essentiel. Aujourd'hui, on a dans la Drôme une plateforme qui est donc managée par la Chambre d'agriculture. C'est la plateforme TAB à Étoile-sur-Rhône, où le directeur de la plateforme explique que, de toute façon, le fait de planter des arbres et d'avoir des cultures entre les arbres, c'est sans doute une des solutions qui sera développée dans les 10 ou 20 ans à venir. Pourquoi ? Parce qu'on va demander des économies de production de carbone au monde de l'élevage, au monde de l'agriculture, des céréales. Et le travail entre des rangs d'arbres, en évitant des intrants, en travaillant différemment, sur pas forcément des rendements supérieurs, mais tendre vers des rendements identiques à ce qu'on a aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont d'avenir. Par contre, alors, aujourd'hui, l'intérêt du bureau d'études en permaculture, c'est que, évidemment, il va y avoir le choix des arbres. Évidemment, aujourd'hui, il y a des plantes que l'on sait plus résistantes. Je pense à la luzerne pour le pâturage, ou des prairies de mélange. Je pense aussi au sorgho fourragé, une plante qui est capable de pousser à des températures où les autres s'arrêtent de croître. Mais en tout cas, ça ne se fera pas Je ne souhaite pas le faire aujourd'hui sur des parcelles nues et autres. Ça se fera sur des parcelles en intraparcellaire. Enfin, je veux dire entre des rangs d'arbres, au moins, à proximité d'arbres. Après, il n'y a que pas ça. Il n'y a pas que ça. C'est, pour avoir de l'herbe, il faut avoir un sol fertile. Et l'idée, c'est d'avoir un sol fertile en faisant travailler toutes les bactéries, les mycorhizes et les choses comme ça du sol qui ont besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'eau et d'air. Ça, c'est indispensable. Pour avoir de l'eau, il y a des systèmes alors, que l'on appelle, qui sont développés en Australie, qui s'appellent K-Line Design. Bon, alors, c'est quelque chose, je n'aime pas m'exprimer comme ça, mais c'est, en fait, c'est des rigoles sur courbe de niveau, globalement, qui servent, lorsqu'il y a des orages violents, où on a 30, 40, 50, 80 mm d'eau qui tombe, à diffuser l'eau dans le sol pour éviter ravinement et érosion. Ce sont des essais qui sont faits. Aujourd'hui, on en retrouve. Il y a une communauté de communes à proximité du Rhône qui est donc un éleveur au vin. C'est une expérience qui a démarré l'année dernière, qui expérimente ces choses-là. Et je pense qu'à travers le bureau... Enfin, moi, si je fais appel à un bureau d'études, c'est à lui de me proposer des choses. Et je pense que dans les propositions que ce bureau d'études va me faire, on aura aussi ce type d'approche.
Vous parlez de Coditer ?
Alors, Coditer, c'est une association qui est très dynamique dans la vallée de Quin. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui s'investissent au sein de cette association et plus particulièrement les deux coprésidentes et coprésidents. Maintenant, Coditer soutient ce projet. Coditer anime cette campagne de financement et enfin de financement participatif. Et Coditer me soutient dans cette direction. Alors déjà, Coditer, c'est une association dont l'acronyme veut dire cohésion et dynamiser les territoires ruraux. Coditer soutiendra d'autres projets à terme. J'en profite aussi pour dire que Coditer, le 20 juillet à 20h30, à la mairie de Saint-Julien-en-Quin, organise une présentation du castor sur la Sûre. Alors, en fait, si je vous parle de l'eau en amont, les castors ont aussi une gestion de l'eau en aval. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Le bureau d'études, en fait, c'est un bureau d'études Permascop. Alors, j'ai choisi le bureau d'études. Il n'y a pas d'appel d'offres particulier. C'est parce que j'ai rencontré une personne qui anime ce bureau d'études et c'est avec cette personne que j'ai choisi de travailler. Je ne peux pas me permettre de faire des appels d'offres et de voir. Pour moi, l'approche technique sera faite par ce bureau d'études-là. Et on travaillera ensemble à terme pour construire ce projet.
Vous parliez des castors à l'instant. Quel apport amène-t-il ?
Alors, donc, en fait, les castors, ils ont... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du castor. Je suis encore moins spécialiste de la vallée de la Sûre.
Vous en avez sur vos territoires ?
Non. Il est légèrement en aval. Mais il y en a effectivement dans la vallée de Quin. Et ils ont la particularité de réguler l'eau. Et donc, après, si vous souhaitez découvrir un peu plus sur le castor, je vous invite à être présent le 20 juillet à 20h30 à Saint-Julien.
Voilà. Il y a aussi Acoprev qui vous soutient.
Oui.
Quel est justement ce regain d'intérêt pour Acoprev sur votre proposition ?
Alors, si vous voulez... Acoprev aujourd'hui, c'est une SAS qui produit de l'électricité pour l'autoconsommation et qui souhaite développer cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que Acoprev initialement était une association, loi 1901, Et donc, quand les choses, donc ce projet qui a été élaboré par Monsieur Delinger, qui a été maire de Saint-Julien-en-Quin. Il est parti d'une association qui s'appelait ACOPREV. Les choses se sont développées. Il y a eu une réelle économie de créer. Donc, il y a eu besoin pour acheter et vendre de l'électricité, enfin produire et vendre de l'électricité, injecter de l'électricité sur le réseau de la commune pour faire de l'autoconsommation. Il a fallu passer par une SAS. La coquille de la société est restée. Et donc, l'association a été transformé en association coditaire. Voilà, c'est de là que les choses, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, coditaire a une autre orientation. C'est pas une orientation de production d'électricité, mais c'est une orientation de dynamiser le territoire, avec d'animer des projets d'activité rurale, agricole et peut-être dans d'autres temps, peut-être. Autre chose qu'agricole, enfin voilà.
À Coprev, dont j'ai reçu Monsieur Delinger plusieurs fois, et donc qui propose aussi cette recherche sur l'énergie issue de l'hydrogène. Il y a donc ce financement participatif également, hein, qui est proposé sur le site Mimosa. Alors, Mimosa avec deux I, hein, voilà. Pour la recherche sur un moteur de recherche. Et quel est l'enjeu, justement, de ce financement participatif pour la ferme Desbonnet?
Alors, si vous voulez, la collecte des fonds, qui est aujourd'hui bien avancée, mais que l'on souhaite, que je souhaite développer, la première affectation de ces fonds, c'est l'étude théorique. Ensuite, la deuxième partie, enfin par la suite, puisque les choses s'étalent, c'est la mise en place, la réalisation, et puis ensuite peut-être l'acquisition des arbres, tout dépend. Si les fonds ne sont pas au rendez-vous, bon, il y a des choses qu'on fera peut-être un peu différemment, ou je ferai moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats d'une exploitation agricole, les résultats économiques d'une exploitation agricole ne permettent pas de faire des chantiers comme ça, sans investissement extérieur. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité faire appel à des gens qui veulent bien soutenir ce projet. Et pour tout à l'heure, je vous ai parlé d'une expérience comme ça qui est faite sur une communauté de communes ardéchoise. Les investissements sur quelques hectares pour cette expérience, c'est 62 000 euros. Nous, moi, je ne joue pas du tout dans cette cour-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un coût énorme, puisqu'après, il peut y avoir des choses à faire avec des heures de pelle mécanique, l'achat des arbres, peut-être des clôtures à faire différemment, des choses comme ça. Et on est tout de suite sur des budgets importants.
Par rapport à cette volonté donc de transformer, hein, cette manière d'exploitation, est-ce que vous vous êtes également concerté avec d'autres exploitants tels que vous, ayant justement forêt, prairie et bétail?
Alors,
et est-ce que cela vous a justement éclairé sur le devenir de ce que vous voulez envisager?
Je vais vous répondre. J'ai concerté personne dans la vallée de Quin. Il faut savoir que c'est aujourd'hui quelque chose. Pour trouver une exploitation qui fonctionne de cette manière-là, avec donc des arbres fruitiers pas plantés en conventionnel et dont la strate sur le sol est pâturée ou cultivée, c'est extrêmement rare. Voilà. Je dirais même inexistant dans la Drôme aujourd'hui. Donc c'est très difficile d'avoir des repères. Voilà. Après, l'idée, c'est ça, si c'est expérimental, et si ça marche, c'est de le dupliquer. Donc, avec le bureau d'études Permascope, dès le départ, il a toujours été envisagé de créer des instruments de mesure pour mesurer l'intérêt de cette pratique et arriver à persuader sur des chiffres, sur quelque chose de très pragmatique, de très concret, des collègues pour aller dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est une de nos volontés.
Ça, c'est une perspective à long terme.
À long terme, bien sûr, et puisqu'on est sur des arbres.
Des estimations de combien d'années?
Je pense que pour l'infiltration de l'eau, le travail des sols, ça, on peut dire, sur un horizon de 3 ans, on peut avoir des remarques. Après, des remarques, et on peut voir des choses. Mais après, sur les arbres, on est sur un cycle d'arbres. Donc, je pense, avant 10-15 ans, ça va être compliqué. Voilà. Mais de toute façon, on ne s'inscrit pas dans un cycle court, on s'inscrit dans un cycle long, voire très long. Voilà.
Il y a cette notion, donc, ce savoir-faire, puisque vous en établissez un avec l'expérience que vous êtes en train d'opérer. Ça sera aussi un savoir-faire à partager pour d'autres lieux identiques en France ou ailleurs.
Si vous voulez, déjà de bien caler le système de mesure qu'on veut mettre en place, l'exploitation de ces données, l'intérêt c'est de pouvoir montrer au niveau local et après s'il y a des gens qui ont cette approche-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent des questions aujourd'hui. Je ne suis pas le seul. Et donc, si dans d'autres régions, des gens sont intéressés, bien évidemment qu'on sera prêt à partager avec eux et voir. On serait très intéressé à ce que des gens se lancent dans ce type de pratique, puisque si jamais on faisait des erreurs, que les mesures nous donnent des indications comme quoi on a fait ça d'une certaine manière, mais on aurait pu l'optimiser en faisant différemment. Moi, les choses auront été faites, je ne pourrais pas revenir en arrière. Par contre, ces gens-là pourraient éviter peut-être une petite erreur ou des choses comme ça. Donc évidemment, le souhait, c'est de partager, bien sûr, c'est d'avancer ensemble.
La nature même des sols, pour vous, est d'importance, d'autant que s'il n'a pratiquement jamais été exploité par l'homme, ou du moins transformé, c'est quand même un point important pour vous.
Oui. Alors, quand j'ai repris cette exploitation, en fait, il y avait des terres qui étaient labourées. Moi, je ne laboure pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les travaux de culture simplifiés que l'on peut mettre en œuvre. Et l'idée, c'est d'éviter de travailler les sols. Après, s'il devait y avoir des adventices qui nécessitent quand on retourne une parcelle pour je le ferai, enfin voilà, je suis pas extrémiste ni dans un sens ni dans l'autre. Après, c'est des sols sur lesquels j'ai jamais amené d'engrais artificiels, des amendements, et je pense que plus ça va aller dans le fait qu'on demande aux agriculteurs de réduire leur production de carbone, je pense que les amendements, il va falloir savoir les utiliser de manière moindre. On est dans des zones d'élevage, on est en montagne, on ne peut pas se comparer à ce qui se passe dans la plaine de Valence. Voilà, mais de toute façon, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose d'une agriculture plus soft, mais de tendre, ne pas dire on fait une croix sur les rendements, qu'ils soient quantitatifs ou économiques. Donc, c'est de trouver des solutions pour avancer. Et puis, il y a aussi la biodiversité. Quand je vous parlais d'un sol riche, c'est un sol avec des bactéries, des mycorhizes, des champignons. Quand on amende, parce qu'il y a toujours une osmose entre les plantes, leurs racines et tout ce monde qui vit autour. Quand on amende, on apporte, par exemple, une quantité de phosphore. La faune du sol qui vit autour, la plante va se dire « j'ai plus besoin de vous pour avoir du phosphore ». Donc, elle ne fait pas d'enzymes ou d'acides aminés ou de différents produits autour qu'utilisent toute cette faune. Elle coupe puisqu'elle l'a apporté. Et donc, tout ce monde-là n'a pas la capacité de se nourrir. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut... En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, je veux en sortir pour avoir une autre approche. Enfin, quand je dis je veux en sortir, je ne le pratique pas, mais je veux... Et je sais qu'il y a les sols peuvent être tout aussi riches, tout aussi vivants, tout aussi fertiles sans ces apports-là. Voilà.
Pour ce projet, est-ce qu'il y a le soutien donc de Coditer, issu de ACOPREV, et est-ce que les collectivités locales aussi sont de la partie pour réfléchir sur cette transformation en quelque sorte?
Alors, au niveau...
Ou du moins, sont-ils interlocuteurs dans cette démarche?
Oui, alors c'est compliqué, votre question, elle est compliquée. Alors, au niveau de la communauté de communes de Die, enfin, si vous voulez, moi, je suis au fond de la vallée, je travaille, j'ai peu de contact avec les gens. Voilà, mais je pense qu'au niveau de la communauté de communes, il y a sans doute des choses qui se passent. Moi, je ne me suis pas rapproché de la communauté de communes de Die. Par contre, je croise des gens qui sont à la chambre d'agriculture. Donc il y a tout un tas de questionnements. Il y a des gens qui font des expériences, notamment à Étoile-sur-Rhône, cette plateforme TAB. Il y a le département qui aide des associations comme la DAF, l'association dromoise d'agroforesterie, qui a une approche forestière. Mais pas une approche fruitière. Donc aujourd'hui, les collectivités regardent quand même ces projets, mais moi, j'ai pas de contact avec eux pour ce projet-là.
Vous parliez de fermes paysannes et sauvages. C'est du côté d'Étoile. C'est d'anciennes terres céréalières,
oui,
qui ont été revues.
C'est ça. Donc avec pas mal de... Alors,
ils ont mis 15-20 ans hein, pour aboutir à ce projet.
Voilà. Donc en fait ils ont ces terrains, ils ont refait des haies, ils ont planté des arbres productifs, ils travaillent des céréales entre des rangées d'arbres productifs. Il n'y a pas d'élevage. Pas que je sache. Par contre, ils font tout un tas de mesures pour savoir est-ce qu'on peut améliorer les rendements, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas autant de rendements, c'est toute une expérimentation. Mais il y a aussi le lycée agricole du Valentin qui aujourd'hui... dont le responsable, Monsieur Lalanne, donc fait du, entre parenthèses, du sylvopastoralisme, mais c'est dans des vergers conventionnels qui ont été plantés il y a déjà peut-être deux dizaines d'années, enfin je suis pas certain, mais peut-être une quinzaine d'années. On n'est pas tout à fait, on est un peu sur la même chose, mais pas sur un verger comme moi je veux le concevoir. Voilà. Et donc je suis en relation avec le responsable de l'exploitation, Monsieur Fischpol, qui où on échange des idées ou quand il voit des choses. Enfin voilà. Mais si vous voulez, c'est ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, mais on n'a aucun recul. C'est un peu.
Alors je disais, il y a aussi ce financement participatif par le site Mimosa. Il suffit de taper justement la ferme des bonnets, je pense, Mimosa, et il y aura le site. On peut passer aussi directement par le site Coditer qui présente également ce projet.
Oui, alors le mieux, c'est d'aller sur le site Mimosa. A priori, aujourd'hui, on devrait, en tapant la ferme des bonnets, on devrait arriver sur le projet, puisque la collecte a bien avancé. Et l'idée, c'est de verser directement sur le site Mimosa. Voilà, parce qu'après verser quelque chose ou envoyer chez Coditer, c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que parfois vous recevez sur vos terres des visiteurs pour peut-être démontrer un peu ce projet ?
Alors ça, c'est tout à fait dans le projet. Aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait, sinon pour des amis, des voisins, des gens qui me posent des questions sur les pratiques. Voilà. Mais demain, l'idée est d'aller un peu plus loin dans cette direction. Et d'autant plus, si on crée quelque chose d'intéressant, on divulgue sur des mesures et des résultats. Évidemment qu'il faudra réfléchir à pouvoir accueillir des gens et montrer et voilà, accueillir dans de bonnes conditions.
Philippe Crosset, vous êtes agriculteur depuis très jeune. Vous êtes formé directement ou destiné à l'agriculture ?
Alors, c'est une question, je ne sais pas comment répondre. Non, je suis pas agriculteur très jeune. J'ai une autre formation, j'ai eu d'autres... un parcours dont je ne veux pas faire état ici, mais en fait... à la fin des années, au début des années 2000, enfin quand je dis 2008, j'ai fait un certificat de spécialisation au vin à Bellac dans le Limousin. J'ai toujours été en lien avec l'agriculture puisque mon père était directeur de la ferme expérimentale des potasses d'Alsace. Et voilà, puis l'été, je passais mon temps avec des cousins, enfin la famille, à entretenir des chemins sur une estive en Haute-Savoie, puisque nous sommes au Savoyard. Et du côté de ma mère, ses parents étaient éleveurs bovins lait. Comme en Haute-Savoie, il y en a beaucoup avec la Tomme et le Rebechon de Savoie, tout le monde connaît. Mais en fait, j'ai souhaité, si vous voulez, les hasards de la vie ont fait que j'ai vécu une expropriation alors que j'étais en Alsace et j'ai souhaité changer radicalement de vie.
Voilà. La dernière question, Philippe Crosset, quel est votre regard sur le monde agricole d'aujourd'hui ?
Si vous voulez, le monde agricole aujourd'hui, il est pluriel. Donc il y a différents types d'exploitations. Vous ne pouvez pas comparer une ferme de 40 hectares de 400 hectares en céréales avec une ferme de 30 hectares en production ovine. Ça n'a strictement rien à voir. Après, ce que je dis, c'est... Le monde agricole est en profonde évolution. Beaucoup d'agriculteurs, même céréaliers, même sur des grandes surfaces, essayent d'améliorer leur façon de travailler, essayent de s'adapter au regard que nos concitoyens ont sur l'agriculture. Je pense que c'est un métier hyper compliqué. Entre les connaissances agronomiques, les contraintes environnementales, quand vous travaillez sur des terres dans la plaine, par exemple de Valence, sur des zones de captage prioritaires d'eau. Donc il y a des conduites à venir, des conduites à tenir. Les agriculteurs savent se remettre en cause, savent choisir d'autres directions. Les choses se font pas comme ça. Avec une baguette magique, les choses se font petit à petit, mais les gens s'emparent de ces sujets, de la biodiversité, différentes choses. Vous avez ces labels haute valeur HVE, haute valeur environnementale, vous avez le bio, même si le bio aujourd'hui ne progresse plus, il y a quand même en Drôme, il y a eu une volonté de la part des exploitants à passer sous ce label, sous cette façon de travailler. Le HVE aujourd'hui est quand même bien... Il y a des exploitations qui s'en emparent et qui travaillent dans ce contexte-là.
Le HVE,
c'est haute valeur environnementale. Donc c'est des gens qui remettent en cause les pratiques qui se faisaient il y a 20 ans en arrière et moi, à la décharge des agriculteurs que l'on peut taxer. C'est toujours le vilain petit canard, mais en fait le monde agricole évolue. Il évolue peut-être lentement, mais il évolue.
Philippe Crosset, en tout cas, je vous remercie d'être venu sur Air du Bois pour nous parler de ce projet de la ferme des Bonnets. Et puis, j'indiquerai les adresses du site sur la page de l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée.
Je voudrais remercier tous nos auditeurs, enfin les auditeurs de RDOA. Et je remercie d'avance les gens qui contribueraient à l'avancée de notre projet. Et je remercie la RDOA de m'avoir reçu. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Au revoir.
Sights all the windows, poisoned the stream, set fire to the boats, but it keeps coming back to hang low from the rack. Scare the dog, scare the children, it howls as it smacks. Slips out of sight when we switch on the light.